Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'émission Regards croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Bleu.
Alors Fulgence, j'espère que tout va bien, mais moi je veux te dire que j'ai le sourire aux lèvres, je suis tellement heureuse parce que jeudi avant qu'on entame ces 4 jours de Pâques, j'ai eu la chance de pouvoir aller au théâtre. Bon, de voir une pièce qu'on peut voir également en web diffusion, mais j'étais dans la salle, au théâtre du CEP.
Ça t'a manqué.
J'ai vu L'amour est un dumpling, qui est une histoire d'amour à la fois évidente et compliquée, qui est super bien jouée dans une mise en scène de Mathieu Quesnel. Et ça se passe dans un restaurant où je vous conseille, vous allez rire aux éclats sur certaines choses et vous allez voir un personnage qui est tout à fait savoureux. C'est le personnage de la patronne du restaurant. Et c'était trop le bonheur de pouvoir applaudir debout, d'être... Ah, quel bonheur, je suis encore sur un nuage. Voilà, j'espère qu'il ne va pas être coupé trop vite, mon nuage.
Tu vois comment je te regarde. Toi, Arlette, s'il n'y a pas de théâtre, tu n'as plus de vie.
Voilà, là, je revis, voilà.
Tu revis, ça se voit, je te regarde, je dis, mais elle est aux anges, là.
Alors, qui avons-nous en première partie?
En première partie de l'émission, on va recevoir le directeur général du... Festival classique,
oui.
Marc Boucher qui va nous parler de la première campagne de sociofinancement de cet événement-là. Il sera avec nous tout de suite après la première pièce musicale.
Eh bien,
on va en musique.
Et attends, deuxième partie, tu veux pas que je t'explique la deuxième partie?
Je suis resté sur ton théâtre qui te...
Non, en deuxième partie, nous nous retrouvons avec Ariane Hébert, notre psychologue qu'on retrouve
Ariane,
une fois par mois.
Oui.
Et là, elle va nous parler de la punition. Alors, on en parle en deuxième partie, restez avec nous.
Voilà, tu sais à quoi je pense, la punition, quoi, les enfants, ou bien nous, on nous punit.
Elle va nous en parler.
On se laisse surprendre. On va en musique.
Allez, avec.
Avec Vax Trains, number 9.
When I hear that lonesome whistle, Lord, I just can't keep from crying. My baby left early one morning, didn't even say goodbye. Now when I hear that whistle, tears fall from my eyes. Number nine, took my baby off the line. When I hear that lonesome whistle, Lord, I just can't keep from crying. At night I wake up screaming, my pillow's soaking wet. I keep hearing that lonesome whistle, and I cannot forget. I walk around in circles, I don't know what to do. I'm so brokenhearted, I'm so doggone blue. Number nine, took my baby off the line. When I hear that lonesome whistle, Lord, I just can't keep from crying. Station, and I'll be on my way.
Number nine, took my baby off the line. When I hear that lonesome whistle, Lord, I just can't keep from crying. Yeah, when I hear that lonesome whistle, Lord, I just can't keep from crying. Oh,
Là, comme je l'ai annoncé en début d'émission, on a notre invité qui est déjà au téléphone avec nous, Marc Boucher, qui va nous parler un peu de cette première campagne de socio-financement pour le festival Classica.
Oui.
Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce baryton et directeur général artistique qui a fondé ce festival en 2010. On est en 11 ans que je vous l'ai dit, voulais prendre le raccourci. Il est depuis plus de 25 ans, il mène cette carrière active tant à l'opéra qu'au concert symphonique, qu'au récital. Et le Conseil québécois de la musique, CQM, lui a décerné 4 prix au plus, dont un pour son rayonnement à l'étranger. Et l'Université de Montréal a honoré en 2017, il se distingue aussi par son engagement communautaire ainsi que par sa contribution à l'essor de la musique classique. Bonjour et merci d'avoir eu le temps d'être avec nous, Marc Boucher.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous, Marc?
Ça va très bien vous-même.
On essaie de bien accueillir la chaleur qui nous fait du bien depuis quelques jours, le soleil.
Absolument, absolument. C'est magnifique dehors.
Oui. Voilà, ça fait 11 ans que cet événement, que vous avez créé cet événement. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous faites une première campagne de socio-financement?
C'est-à-dire qu'on a fait, depuis la première année du festival, on faisait des événements, des soirées bénéfices qui ont été des grands succès.
Oui.
Mais aujourd'hui, la pandémie du COVID-19 nous oblige à nous réinventer, pour utiliser un mot un peu à la mode.
Oui.
Et donc, on ne peut pas regrouper plusieurs centaines de personnes dans une même salle.
Malheureusement.
Exactement. Mmh. Donc voilà. Donc nous avons décidé de réorienter cet événement bénéfice vers un tout nouveau modèle, et c'est une campagne de socio-financement.
Oui.
Et je crois que c'est même peut-être quelque chose qu'on va garder peut-être dans le futur. Voilà.
J'allais vous poser la question plus tard. Est-ce que vous allez rester comme ça?
Probablement pas rester comme ça. Mais
non, rester avec le socio-financement, je veux dire. Voilà.
Votre question est excellente. Moi, je pense qu'on va faire les deux. Mmh. On va faire et la campagne et la soirée bénéfice.
C'est
toujours un grand événement où c'est toujours très amusant de s'y retrouver, très agréable, et on côtoie beaucoup de gens du milieu.
Oui.
Et aussi des gens qui sont intéressés par la musique classique.
Oui.
et des gens qui veulent en connaître davantage sur la musique classique.
Oui.
Et donc ça va rester, mais je pense qu'il y a de la place pour ce type de campagne de socio-financement.
Oui.
qui se retrouve dans toutes sortes d'organismes font ce genre de campagne, même avant la pandémie. Donc nous, ça nous a un peu forcé à se réinventer, mais franchement, c'est jusqu'à date, c'est une bonne chose.
Ouais. Oui. Et le montant amassé, c'est de 100 000 $. Je pense que si vous nous écoutez, les Samaritains, monsieur, madame, si vous
les amoureux,
amoureux de la musique classique, même si vous n'êtes pas amoureux de la musique classique, que vous avez les moyens d'aider le festival Classica, faites le petit geste.
Mais en fait, si on peut dire oui, c'est le festival, mais le festival est un organisme à but non lucratif,
oui.
Même est un organisme de charité et d'économie sociale même. Et en fait, en ce moment, en temps de pandémie, les organismes comme le festival, tout ça, on est soutenu avec des subventions, des fonds publics, mais évidemment, cet argent que nous amassons nous aide à compléter nos programmations et donc va directement dans les poches des artistes.
Oui.
Le problème aujourd'hui, c'est oui, les organismes ont été soutenus par le gouvernement de façon généreuse.
Oui.
Mais il faut que cet argent-là ruisselle dans les poches des artistes.
Des artistes que vous engagez, oui.
Exactement, qui eux, en ce moment, ont beaucoup de difficultés. C'est ça le problème.
Oui. Alors, mais pourquoi est-ce que ce festival, pourquoi il n'avait pas existé depuis? Si vous n'avez pas eu cette idée, ça n'avait jamais existé, le festival Classica. Qu'est-ce qui bien avant ça? C'est vous qui avez quelle mouche qui vous a piqué ce jour-là, il y a 11 ans, vous avez dit?
Bah, écoutez, c'est une mouche. Moi personnellement, j'étais en France parce que je suis baryton lyrique, je suis chanteur d'opéra. Et donc j'étais en France dans une production de l'opéra dans 3 villes différentes, à Reims, à Brest et à Lille.
Oui.
Et j'étais dans une production de l'opéra Tosca de Puccini. Et le soir, vous savez, ça peut faire très glamour la carrière d'opéra, mais souvent on se retrouve le soir après les répétitions ou même le concert dans sa chambre d'hôtel, seul à zapper sur la télé. Et puis, bon, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour, disons, ma communauté, on va dire la Rive-Sud. Moi, j'habite à Saint-Lambert, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la musique classique, mais aussi pour, le, on va dire, au départ, la Rive-Sud.
Oui.
Et donc, cette idée est née dans une chambre d'hôtel en 2008. Et puis voilà, donc j'ai lancé l'idée et puis on a fédéré des gens autour de cette idée. Et depuis, ça s'est avéré un grand succès en fait en termes d'achalandage après 10 ans.
Oui.
On est le plus important festival de musique classique au Canada, festival urbain.
Bravo. Félicitations à vous.
Mais il y avait d'autres festivals avant, bien évidemment, le Festival de la Lundière et voilà, donc on s'est inspiré aussi de ce qui existait.
Oui.
Et on va dire que la dynamique métropolitaine Métropolitaine Énergie, c'est un peu modulé au fil des années. Et des festivals comme le nôtre, il y a aussi la virée classique là, de l'OSM.
Oui.
Donc, on va dire qu'il y avait une place à prendre et ce désir de la population de consommer de plus en plus de musique classique, il faut bien le dire, parce que je pense que les résultats, en tout cas, le démontrent.
Oui, oui. Ah, je vous dis bravo, ça, sincèrement. C'est la 10e édition de ce festival, de Wolfgang Amadeus, du 26 juin au 11 juillet 2021.
Exact.
Oui. Et puis, bon, pour le sociofinancement, ça a commencé le mois passé, en mars, ça va jusqu'au 28 juin.
Mais en fait, pour être plus précis, en ce moment, c'est un peu spécial parce que non, on est en pandémie.
Oui.
Disons qu'habituellement, le festival a toujours lieu la dernière de mai et les trois premières de juin.
Oui.
Il y a des grandes festivités extérieures, il y a des grands concerts symphoniques gratuits en extérieur.
Oui.
Il y a de l'animation et tout ça. Et bien évidemment, cette année, tout ça, c'est reporté à l'an prochain une fois de plus. Ça a été annulé l'an dernier.
Oui.
Ça le sera encore. Mais ce qui va rester cette année, en fait, c'est une proposition de concert. Et là, on se croise les doigts pour que les salles de concert puissent rester ouvertes en juin.
Oui.
Donc, du 28 juin au 21... du 28 mai au 21 juin,
oui,
il y aura une vingtaine de concerts qui seront présentés et on pourra accueillir le public en distanciation, évidemment, avec toutes les normes sanitaires respectées. Donc, ça, c'est une première chose. Et tous ces concerts seront enregistré pour web diffusion. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé du 26 juin au 11 juillet, c'est donc la période de web diffusion qui est réservée, on va dire, de façon VIP à ceux qui vont contribuer à la campagne de
ceux qui vont faire des dons.
Exactement.
D'accord.
Donc voilà. Mais ensuite, ce 2 semaines de web diffusion sera aussi reporté à l'automne pour 2 semaines supplémentaires qui, lui, s'adressera au public en général.
En général. Ouais, OK. Marc, on va écouter Flûte Passion de Mozart.
Mais oui.
Oui. Il dit, mais oui.
Absolument.
Avant de continuer la conversation. Alors, Flûte Passion Mozart.
Thank you.
flûte passion, Mozart. Wow. Je finirai par aimer la musique classique. Hein. Ouais, grâce à vous et d'autres personnes aussi, comme vous avez dit, d'autres organisateurs qui nous font découvrir ce genre de musique que moi j'écoutais très peu à l'époque, il y a quelques années, mais voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, à force de forger, on devient forgeron, ou bien on prend le goût, voilà, c'est, et puis ça y va. Bon, et le thème de cette année, Marc.
Oui.
Voilà, ça, j'aime beaucoup ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais musicalement solidaire.
Oui, ben oui. Ben en fait, écoutez, c'est tout simple comme thématique de la campagne, musicalement solidaire. Et je crois que ça pourrait s'adresser, là, on pourrait dire, sur la musique au sens large.
Oui.
Parce que la pandémie touche évidemment le monde artistique dans son ensemble, pas que la musique et pas que la musique classique.
C'est ça.
Mais nous, on trouvait que c'était deux mots qui résonnaient et qui décrivaient effectivement le besoin qu'on a, ce besoin de solidarité, ce besoin d'aider les artistes classiques. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que une carrière en musique classique, former un musicien, former un chanteur d'opéra, former un chef d'orchestre, c'est des années et des années d'études.
Oui.
Et en ce moment, sans être alarmiste, moi, je reçois presque à tous les jours des lettres, des confidences d'artistes, de mes amis, de collègues, de gens qu'on engage au festival, qui remettent en question de façon sérieuse leur orientation musicale. Mmh. Et ça, c'est un patrimoine. On n'a pas le loisir de perdre ça au Québec. On n'a pas les moyens de perdre cette expertise, cette formation.
Oui.
On parle d'années de formation. Et c'est ça qui est si grave en ce moment pour ce qui est finalement du monde de la musique classique, on va dire.
Oui, tu voulais ajouter quelque chose à
l'heure? Non, je voulais dire juste, je trouve ça très dommageable qu'on en arrive là à détruire des gens qui ont l'envie et la passion de faire quelque chose.
Écoutez-moi, moi, j'ai une amie, je nommerai pas de nom évidemment, mais c'est un exemple, une amie, une chanteuse qui était vraiment, vraiment au seuil d'une carrière très prometteuse,
oui.
Qui maintenant a changé d'orientation, retourne à l'université. Et ça, il y a des exemples comme celui-là, il y en a plein, là, il y en a des. Et là, on parle de la fine fleur du talent québécois formé dans nos écoles, dans nos centres Et c'est là le drame, parce que je veux pas dire que la musique pop, c'est pas aussi dramatique. Mes enfants font de la musique pop, bon, tout ça, mais le problème, c'est qu'en musique classique, ça demande de longues, longues, longues années d'études pour arriver au résultat que vous venez d'entendre dans Flûte Passion, par exemple.
Oui.
Et c'est ça qui est... Et c'est pour ça qu'il faut soutenir en ce moment, et on va dire peut-être, ne nous le souhaitons pas, mais peut-être jusqu'en 2022,
oui.
Il faudra vraiment être très vigilant et pour ne pas perdre trop de ces artistes qui auraient envie de se réorienter.
Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de ça.
Mais déjà, c'est très difficile de vivre de ça.
Déjà, c'est pas facile.
Déjà, c'était pas facile. Déjà, avant la pandémie, c'était tout un défi.
Oui.
Et là arrive la pandémie et c'est peut-être C'est trop pour beaucoup de...
Oui. Ça dure trop dans le temps aussi. Quand c'est quelque chose qui est grave, sous 3 semaines de temps, ça se passe mieux que de l'avoir pendant 14 mois.
C'est déprimant. Hein. Voilà. Comment, pour ceux que vous connaissez, quel est le genre de conseil que vous leur donnez quand ils prennent la décision de dire « je m'oriente ailleurs ».
Oh mon Dieu, ça c'est une question que vous me posez là qui est très grave dans le sens sérieuse. C'est-à-dire que moi, je vais pas répondre directement à cette question. Je vais simplement vous dire que moi, mon combat depuis 10 ans, depuis qu'on a mis en place le Festival Classica, le combat et la mission du Festival Classica, c'est de donner du travail aux musiciens et aux musiciennes du Québec et évidemment du Canada et de l'étranger aussi, mais on priorise
Nos musiciens d'ici, oui, d'abord.
Nos musiciens, sans égard, le Festival Classica, on présente de la musique classique et de la musique classique des autres cultures.
Ah.
Et ça, il faut bien le dire, parce que ce soit de la musique du Nunavut, que ce soit du tango argentin, comme cette année c'est le centième de Piazzolla, oui, que ce soit de la musique balinaise, que ce soit de la musique sénégalaise, que ce, peu importe, de la musique classique des autres cultures.
Oui.
Et voilà, donc c'est un mandat fort qu'on se donne de faire travailler le maximum de musiciens possible. C'est notre combat depuis 10 ans et je pense que ça justifie, ça, notre travail est d'autant plus justifié maintenant que la situation le commande de façon encore plus aiguë.
Oui, oui. Bravo et merci à vous, Marc, et votre équipe qui vous êtes lancé dans cette aventure. Ouais, vraiment, c'est...
J'avais eu la chance de recevoir en entrevue le chef Mathias Maut.
Mathias.
Oui. Très, très sympathique et très intéressant.
Oui, Mathias qui vient de gagner l'Ensemble Caprice, qui vient de gagner un prix Opus pour leur action communautaire. Ils ont fait des milliers, pas des centaines, des milliers de concerts l'été dernier pour les résidences pour personnes âgées un peu partout dans le Québec. Et voilà, magnifique. La musique, on oublie, en fait, oui, il y a la musique pop et tout ça, pour le cinéma, tout ça. Là. Bon, mais chaque pan de la culture est important et est essentiel au mieux vivre collectif de nous tous, mieux vivre collectif.
Mmh. C'est vrai.
Et la musique classique l'est certainement. Vous me disiez tout à l'heure que vous initiez peu à peu à la musique classique.
Oui.
Mais la musique classique, elle est omniprésente. Elle est au cinéma, elle est dans les thèmes, quand vous allez dans les grands magasins, elle est même dans les ascenseurs, elle est partout.
On ne s'en rend pas compte.
Elle est même mêlée au rap.
On ne s'en rend pas compte.
Oui.
Elle est même mêlée au rap. On ne se rend pas compte.
Oui, oui.
Vous seriez étonné du nombre de pièces musicales classiques que vous connaissez, que vous pouvez fredonner si je me mets à vous fredonner l'amorce devant vous. Vous allez dire, ben oui, je connais ça.
Oui, je connais ça.
Donc, la musique classique, elle est omniprésente.
Ouais.
Et voilà. Et donc, ça prend beaucoup de temps à former des musiciens. Et c'est là où, cette année, encore, de façon encore plus aiguë, on doit soutenir ce milieu de la musique classique.
Merci beaucoup, Marc Boucher, directeur général du Festival Classica. 10e édition d'ailleurs, disons plus de 20 concerts qui seront tenus, qui vont permettre l'embauche de plus d'une trentaine d'artistes, 165 musiciens.
Ah voilà. Oui. 244 artistes, on va dire.
En gros, 244.
Alors là, oui. Chapeau bas.
Oui.
Oui, merci.
Oui. En gros, les artistes physiques, les solistes, les 165 musiciens d'orchestre et puis les 31 artistes et autres. Là. Merci beaucoup à vous. Et puis, je vous souhaite. Je souhaite à ce que beaucoup, beaucoup de donateurs aillent sur votre site festivalclassica.com/musicalement-solidaire. Allez-y faire le petit don là-bas, le petit geste. C'est pas des millions qu'on vous demande, mais on veut atteindre les 100 000 là, que Marc Boucher et son équipe se sont fixés. Bravo à vous, merci pour le beau travail
merci.
Que vous faites de vos collègues
merci.
Artistes. Et à bientôt
merci.
De vous réentendre ici.
Merci de l'invitation, merci.
Avec plaisir, Marc. Merci. Souvenir Saint-Saëns. Restez à l'écoute, on vous revient après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Alors avant qu'on retrouve Ariane Hébert, notre psy, qui va nous parler de comment vivre la punition, en tout cas on va voir dont elle va nous en parler, on va écouter Guillaume Jabour du groupe Jabour qui nous chante sa nouvelle, sa toute dernière chanson « Dans ton café ». Et on se retrouve avec lui d'ailleurs dans une quinzaine de jours. Voilà. Alors Guillaume, c'est à toi.
Quand tu me dis à la prochaine, je pense à ta fille puis à la mienne. Si on se voyait plus souvent, on pourrait dire qu'on a pris le temps de se connaître un peu plus. Comme c'est là, je sais même pas ce que tu prends dans ton café. On se voit dans un salon funéraire, au mariage de nos consoeurs et de nos confrères. On se dit toujours qu'il faudrait se voir pour prendre un verre, pour jaser un peu plus. Comme si là, je sais même pas ce que tu prends dans ton café.
Ariane Hébert, bonjour.
Bonjour. Là, on peut dire bonjour maintenant, on ne dit plus bonsoir à cette heure-là.
On se dit bonjour, on peut même dire bon matin si on en a envie. Voilà.
Bonjour Ariane Hébert.
Alors, vous allez nous parler de la punition, le mot que je déteste par excellence, mais vous allez nous l'apprendre comme il faut.
Ah, ben voyez-vous, ben, peut-être que... Ah, vous faites une belle introduction à la chronique. Parce que, en fait, là, je vous raconte, une idée m'est venue de parler de la punition. Je suis allée reconduire mon chien chez l'éleveur, chez le dresseur ce week-end. Puis là, on parlait des comportements que je voulais voir disparaître. Oui. Je le voyais mettre des gants blancs pour, jaser avec moi des méthodes qu'il était pour employer. Et puis, il a fini par me dire, écoute, c'est que maintenant, je ne peux plus nommer punition parce que les gens grimpent dans les grands rideaux quand je nomme punition. Puis je dis, mais ça fait tellement écho sur ma pratique parce qu'effectivement, c'est plus un terme qu'on utilise. Hein. C'est comme, c'est rendu un terme tabou. Fait que donc, quand vous me dites que c'est un terme que vous n'aimez pas, est-ce qu'on est dans ce contexte-là?
Ah, mais complètement, parce que pour moi, le mot punition, ça évoque une souffrance physique, ça évoque voire même une humiliation, ça évoque des choses qui ne sont pas saines pour l'être humain. Donc, voilà, pour moi, punition, c'est un mot à bannir, mais dans mon dictionnaire à moi, hein, attention.
Je comprends très bien, parce que vous associez punition à châtiment.
Voilà.
Parce que pas nécessairement corporel, mais en fait, un châtiment, normalement, c'est violent. Là. C'est,
ah oui.
c'est quelque chose justement qu'on veut vraiment éviter à tout prix. Alors que pour moi, ben, une punition, c'est davantage une rétroaction qu'on va imposer suite à un comportement dans le but de faire disparaître ce comportement-là. Donc, une punition, c'est vraiment pas... c'est pas préventif. On donne pas une punition en prévision que tel ou tel comportement va apparaître. On donne vraiment une punition quand le comportement indésirable a été émis et qu'on veut voir ce comportement-là disparaître. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on veut voir un comportement disparaître? Ben, en fait, c'est soit d'un point de vue sociétal, par exemple, si c'est un comportement qu'on juge répréhensible ou inacceptable dans notre société, ou encore qui représente une menace pour l'individu. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, je peux punir mon enfant parce qu'il a été impoli avec l'enseignante. Ça, c'est socialement inacceptable. Je refuse que ça arrive de nouveau. Donc, à ce moment-là, je vais émettre une punition. Ben, il y a d'autres façons, là, mais puisqu'on parle de punition. Donc, ça serait une des stratégies. Maintenant, je pourrais aussi punir mon enfant parce qu'il a été ce week-end marcher sur la glace du lac qui commence à faiblir. Et donc, il y a eu un comportement répréhensible qui a mis sa santé et sa sécurité en danger. Et je veux, à ce moment-là, éviter à tout prix que ce comportement-là se répète. Donc, c'est vraiment dans le but de faire disparaître ce comportement-là, je vais émettre la punition. Bien entendu, la discussion que j'avais justement avec l'éleveur de chiens, le dresseur, je ne sais plus comment on les appelle, là, mais c'est le dresseur de lion. donc, on discutait justement de comment est perçue la punition et dans quelles conditions versus les autres stratégies comme le renforcement positif. Autant dans l'éducation canine, semble-t-il, que dans l'éducation des enfants, on va essayer de favoriser le renforcement positif. C'est une voie beaucoup plus douce et agréable. Donc, encore là, par exemple, si mon enfant se met au devoir de façon convenable, travaille bien, reste mobilisé, bien, je peux offrir un renforcement positif en lui disant, écoute, si tu répètes ce comportement-là que j'observe, dans des mots d'enfant, bien entendu, mais si tu arrives à te maintenir comme ça, à poursuivre ça, bien, tu vas accumuler, disons, des jetons. Puis, au terme de 5 jetons, tu vas pouvoir aller choisir une surprise dans le sac à surprise. Bon, là, on est dans du renforcement positif. Ça peut très bien. Mais encore faut-il que le gain surpasse en fait les efforts que ça me demande, n'est-ce pas? Donc, ça va être très difficile de renforcer un enfant en lui disant, ben, si tu continues à bien travailler comme ça, maman va mettre plus de brocolis ce soir dans ton assiette. Tu vas pouvoir manger plus de légumes. Ce gain-là, il n'est pas intéressant pour l'enfant, n'est-ce pas? Donc, il faut que les situations avec lesquels on peut utiliser le renforcement positif, il faut que les situations s'y prêtent. Et c'est pas vrai de dire que toutes les situations s'y prêtent. Il y a une autre avenue, en fait, qu'on peut utiliser pour, justement, pour créer l'apparition d'un comportement ou faire disparaître un comportement qui est non désiré, qui est pas souhaitable. C'est tout simplement la conséquence naturelle de ces actes. Donc,
ah ben ça, voilà, ça c'est bon.
Oui, c'est bon. Vous avez tout à fait raison. Mais reprenons l'exemple de mon lac en fin de semaine. C'est quoi la conséquence naturelle de ces actes? Ben, c'est qu'ils prennent une débarque dans l'eau glacée.
Ah ben oui. Non, mais ben, non, on peut pas le faire avoir, non.
Exact. Et donc, justement, l'autre chose qui m'a allumée sur ce sujet-là, c'est que ce week-end, je me promenais dans mon quartier et je voyais plein de familles qui prenaient des marches ensemble et qui tiraient des chaises de patio et puis qui se retrouvaient essentiellement à l'extérieur. Il faisait beau, la température s'y prêtait, mais ça reste que c'est encore interdit. En théorie, là, personne n'aurait dû aller s'asseoir sur une chaise de jardin avec ses parents ou avec sa cousine, peu importe, là. Donc, ça, c'est toujours pas admis. Mais là, les gens commencent à s'en permettre de plus en plus parce que la menace de la punition est loin, est à distance. Tu sais, au début, là, dans le temps de Noël, là, on entendait beaucoup d'histoires de gens qui avaient reçu, qui avaient, en fait, des policiers qui avaient distribué des étiquettes ou des amendes. Et les gens craignaient cette punition-là plus qu'actuellement, je crois. Donc là, on commence à relâcher un petit peu parce que, justement, cette punition-là est loin. Et d'autre part, ben, la conséquence naturelle de ces actes, ça, c'est une belle situation où on ne peut pas vraiment appliquer cette stratégie-là. Dire la conséquence naturelle de tes actes, si tu ne fais pas attention, ben, tu attraperas la COVID. Ben non, ça n'a pas de sens. Attraper la COVID, c'est pas juste tant pis pour toi. C'est tant pis pour les gens qui te font la transmettre, c'est tant pis pour le système de santé, c'est tant pis pour le milieu économique dans lequel tu évolues. on ne peut pas se permettre cette conséquence naturelle-là, vous me suivez. Fait que là, à ce moment-là, la punition peut être une voie qu'on doit, ou en tout cas, une voie priorisée.
Bon, alors, pourquoi? Ça, c'est une question à laquelle je serai un petit peu longue dans ma réponse. Mais en tout cas, l'incitation à la délation n'est pas pour moi quelque chose d'intelligent à faire et à pousser les gens à dire, parce que c'est ce qui arrive aussi. On va en reparler. On fait la petite pause musicale parce que la conversation sera un peu longue entre nous, mais il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà.
Oui, je vais nuancer. Allons à la pause.
Allez, on part en musique et on revient tout de suite après.
On a des pattes, des belles oreilles, des nez qui hument, des yeux qui grouillent. On a des poils et de la peau très douce. On a des griffes et des langues roses. On lèche parfois, parfois on mord, on hurle à la lune en faisant l'amour. On se fait écraser par l'autobus. Ou ben on meurt vieux, sans avoir rien dit. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre les bras. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre les bras. On peut nous voir parfois ensemble, on jurait qu'on parle pour vrai. Des fois on pense, on dirait qu'on souffre. Des fois on grogne, on dirait qu'on pleure. On est les plus beaux, on est les plus laids, on est les plus forts. On est les plus faibles. Quand on n'a rien, on a besoin de tout. Tout, 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 tout. Quand on a tout de tout, on a besoin de rien. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre les bras. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre les bras. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre les bras. Lila, lila, l'amour est là. Lila, lila, ouvre les bras.
Alors, on a entendu Garnaud, Boris, qui nous chantait « On a des pattes de belles oreilles ». Alors, Ariane, on revient là-dessus. Je veux pas qu'on se dispute au micro, hein, mais bon.
Je suis contente parce que c'est un peu le but. Parce qu'en fait, je dois vous avouer que là, je vous fais un long exposé justement pour susciter quelque chose en vous, mais ultimement, je vais vous dire quand même que la punition, pour moi, la punition viol et des amendes d'étiquette de police, c'est pas nécessairement la solution que je pense être la bonne non plus.
Non, c'est la solution qui ramasse de l'argent pour le gouvernement. C'est tout ce que
oui,
ça fait.
Ça. Mais justement, les punitions ne sont pas toujours sous forme d'étiquette. Il y a des punitions qui sont beaucoup plus efficaces que les punitions sous forme justement d'amende. Et je pense notamment aux sanctions sociales. Donc, on est des êtres très influençables et très soumis ou fragiles au regard des autres.
Oui.
Et à partir du moment où l'uniformité est prônée dans un groupe, les divergents vont être sanctionnés au plan social. Donc, plus on accepte et on adhère collectivement à l'idée d'un comportement à adopter, ben plus justement cette sanction-là va se faire sentir rapidement et de façon quasi intransigeante. Là, maintenant, la difficulté qu'on rencontre, pareil, je reprends toujours l'exemple de la COVID, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on nous avait promis, bon, le déconfinement. Alors, là, on s'est serré les coudes, tout le monde ensemble. On a été capable de faire ce blitz-là en se disant, ben, la lumière est là au bout du tunnel. Là, la lumière, elle commence à faiblir un peu, puis le tunnel, il s'allonge, puis là, ben, oui, ouh, il n'y a plus de lumière, puis là, il y a un peu de lumière. Puis là, ça devient un petit peu plus difficile d'obtenir cette uniformité-là de cohésion dans le groupe parce que, justement, là, il y a un mouvement de va-et-vient là, dans la promesse de la récompense. Et là, c'est là, c'est à ce moment-là que la punition pourrait être une façon de resserrer les troupes en disant, mais la punition, là, c'est une stratégie de peur. Hein?
Elle n'est pas faite par rapport à l'intelligence de l'être humain. Elle est faite, mets-moi dans la peur et puis je vais accepter n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je m'excuse, je ne veux pas en faire une tribune, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Mais qu'est-ce que tu proposes dans ce cas-là, pour ceux qui ne respectent pas?
Je laisse parler Ariane, c'est sa chronique.
J'allais juste surfer sur votre idée en disant, il y a des circonstances que moi, je vois bien que ça marche. Par exemple, prenons, tiens, je vous dis, demain, tous les policiers tombent en grève, puis personne n'émet de contravention. Entre vous et moi, ça se peut que je compte pas trois bateaux à toutes mes arrêts-stops. Mais je vous dis pas que je vais rouler 140 sur l'autoroute avec le cellulaire à la main. Là. Oui. Mais il y a des petites entorses comme ça que je risque beaucoup plus de faire si je n'ai pas la menace de la punition qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je comprends ça.
Bon. Maintenant, est-ce que c'est la solution d'avoir toujours l'œil au-dessus de nous qui nous regarde, prêt à nous sanctionner? Ben non. L'idée, c'est qu'il faut venir justement adopter, intérioriser l'interdit. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'aura plus besoin d'une surveillance. Et comment on fait ça, intérioriser un interdit? En fait, c'est à partir du moment où on le comprend, on le raisonne et qu'on est capable d'empathie. Donc, si par exemple, je dis à un enfant, ne vole pas la collation de ton ami à côté, il se prend une surveillance. Sinon, la première occasion qu'il va avoir, il va se servir. Bon. Au fur et à mesure qu'un enfant va vieillir, il va comprendre que c'est pas bien, c'est pas moral, mais aussi que ça risque de faire de la peine à l'autre, s'il fait. Fait grâce à son empathie, il va être capable, ultimement, d'intérioriser cette règle-là et de ne plus voler dans aucune circonstance. Là, maintenant, c'est ça qui est difficile à aller chercher avec les mouvements, comme je vous disais, de fermeture, de réouverture. On dirait qu'on est tellement focus sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Je trouve que la petite cible qui manque là, actuellement pour créer l'adhésion dans la population, c'est de mettre en lumière qu'est-ce que ça fait aux autres quand on respecte pas la règle.
Là, je suis d'accord. Non, mais là, je suis d'accord parce que prendre les précautions d'usage pour les gens qui veulent, qui ont plus peur que d'autres ou qui veulent se protéger, porter le masque, faire attention, faire de la distanciation, je suis d'accord avec ça. Mais ne me faites pas peur et ne faites pas de menaces. C'est insupportable.
Je trouve ça insupportable. Je pense qu'on a une opinion. Enfin, je pense qu'il y a une partie qui peut être aidante pour une certaine population où c'est plus difficile justement de faire cette intériorisation-là. Puis je me dis, au grand mot, les grands moyens, mais c'est pas souhaitable. On s'entend, là, c'est pas souhaitable nécessairement de punir, mais dans la société, il y en a qui ont besoin d'aller faire un séjour en prison, puis il y en a qui ont besoin de recevoir un ticket pour comprendre.
Oui,
je suis d'accord.
Oui,
c'est vrai.
Ariane, c'est ce que je voulais, c'est ce que je demandais à Arlette. Au fait, bon, il y aura toujours des récalcitrants. Il y a des gens qui, quels que soient les moyens appliqué par ceux qui surveillent ou pas, je ne sais quoi, là, il y aura des gens toujours qui vont passer de travers, qui vont dire bon ben moi ça m'est égal, et puis alors que quand on dit ça m'est égal, concernant la pandémie, ce n'est pas seulement eux qui le vivent qui est en danger, c'est la vie de tout un groupe qui est en danger dans ce cas-là.
Mais quand tu sors et que tu prends acte, le gars qui est dans son jardin, qui a peut-être amené son fauteuil près de trois autres personnes, si après quand il sort, il ou elle met son masque et fait de la distanciation sociale ou suit les directives, où est le drame?
Ça, c'est toi, tu vas à l'extrême, là.
Ben non, je ne vais pas à l'extrême, on est en train de demander aux gens de faire de la délation, parce que trois se rencontrent, s'ils se tiennent correctement à l'extérieur dès qu'ils sortent de chez eux, qu'ils font ce qu'ils ont à faire.
Moi, je n'en ferai pas. Je ne ferai pas de délation, ça c'est clair. C'est...
Ben non. Écoutez, non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais encore là, c'est parce que là, on tombe dans une autre argumentation.
Après, je vais parler d'extrême.
On va vous laisser finir parce qu'il ne reste plus quelques minutes, donc ça serait long à débattre. Vous avez lancé un sujet brûlant, Ariane.
Oui, c'est vrai.
Oui, exact, c'est vrai. Puis, je reconnais, j'ai souvent ce discours-là avec des parents qui sont dans mon bureau qui me disent, ben oui, mais maintenant, on n'a plus le droit de punir. Puis j'essaie toujours de trancher en me disant, attends, la conséquence naturelle de ces actes, c'est parfait, c'est la meilleure avenue. Mais quand c'est pas possible, quand par exemple, je laisserai pas mon enfant sauter en bas du cabanon,
évidemment,
parce qu'il va l'expérimenter puis il verra bien, tu sais.
Non.
Donc, à ce moment-là, oui, c'est vrai qu'il faut intervenir avec un petit peu plus de j'ai envie de dire force, mais encore là, c'est ce que je voudrais tellement pas que le mot punition évoque dans votre esprit, comme on disait tantôt, châtiment. C'est pas comme ça que je le vois, là. Mais donc, des fois, ça va être nécessaire. Et je pense qu'en tant que société, on est rendu un peu frileux à cet esprit-là de punition pour justement cadrer des comportements. Je suis d'accord avec vous, on reprend le cas de la COVID. Moi non plus, je suis pas vraiment pro délation. Puis je suis pas vraiment pro. Idéalement, là, j'aimerais que les gens ne reçoivent pas.
Je fais attention à tout, mais sans agressivité. Je dis, je fais attention à tout, mais sans agressivité et sans me laisser agresser non plus par les gens qui peuvent être terrorisés. Donc, faut comprendre, mais il y a des limites.
Oui, puis en fait, une punition, ça devrait toujours être pas nécessairement une conséquence naturelle, mais ça devrait être conséquent. En ce sens aussi, par exemple...
Ça devrait nous apprendre quelque chose.
Oui, c'est ça. Puis il faut que ça ait un lien avec le geste commis. Je priverai pas mon enfant de télévision pendant deux semaines parce qu'il a refusé de finir son repas. Il n'y a pas de lien. Ça,
évidemment.
C'est ça, c'est aléatoire, ça, comme choix. Mais donc, il faut qu'il y ait un apprentissage qui se fasse.
Lui expliquer le pourquoi, le comment le corps réagit. De toute façon, on arrive à la fin. Vous voulez qu'on se donne rendez-vous pour avoir une vraie grosse discussion?
Vous allez vous
en extérieur, sans gants de boxe.
Vous allez vous rencontrer où? Avec distanciation physique.
Juste pour en parler, non, mais enfin, on rigole, mais c'est tout ça aussi, quoi. Il faut prendre une grande respiration et puis il faut... Hein? Voilà, on passe un moment qui est difficile, d'accord, mais voilà... La peur, la panique n'est pas obligée d'être notre compagnon de route. Sur ce, Ariane, je m'en excuse de vous avoir pris un petit peu de temps de chronique, mais nous arrivons vers la fin.
Je vous apprends, je trouvais ça le fun de cet échange. Non, tant mieux. C'était interactif, j'adore.
Merci beaucoup. Et
je
puis,
vous en prie, on se reparle le mois prochain.
On se reparle le mois prochain pour une autre chose un petit peu moins virulente, peut-être.
C'est bon, je choisis mon sujet plus doux.
Merci beaucoup.
Merci à
bientôt. Merci, Ariane.
Au revoir.
Je ne suis pas celui que je dis que je suis. Je raconte une histoire, mais ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas non plus celui que l'on dit. Oh, tout est blanc ou noir, parfois mon ciel est gris. Je laisse pas te voir, je cache les ennuis. Quand la chambre à miroir vous renvoie vos envies. Je ne suis pas celui qui pleure, non je ris. Je le ferai croire pour tous les jours de pluie. Oh, méfiez-vous des gens heureux, pour qui le ciel est toujours bleu. Y'a que les fous qui restent, qui font semblant de sourire même quand il pleut. Les amis, est-ce ma faute si j'adore?
On vient d'entendre Alexandre Désilé qui nous chantait Les gens heureux. Et nous sommes à la fin de cette émission, Fulgence.
Oui, c'est fini pour cette émission de ce beau mardi. Hein.
Oui,
très merci. Belle journée ensoleillée d'ailleurs. Et on espère qu'on aura les prochaines journées comme ça aussi.
Ça y est, on y arrive là maintenant. On est dans le mois d'avril.
Il ne faut pas trop crier parce que.
Tout va bien. Mais moi, je crie.
Selon le météorologue, on peut avoir quelques journées de neige encore.
Merci à Yann Hébert d'avoir été là.
On dit merci à Marc Boucher qui, dans le cadre de le sociofinancement, la première campagne de sociofinancement, là, allez-y donner un peu d'argent là-bas. Festival Classica.
Ah oui.
Et puis bon, ben.
Intéressant.
On se voit demain.
Intéressant à voir. On se voit demain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis merci à Maurice Bolduc pour les musiques. Voilà. Donc, c'est dans cette recherche-là, bah, écoute, on a passé quand même un bon moment. Et puis, on vous souhaite le meilleur. Écoutez, les beaux jours arrivent. Il fait bon.
Prenez soin de vous.
Et puis,
prenez soin surtout de vos minutes.
Oui, de vos minutes. Et puis, prenez ce qu'il vous faut, ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez
à
faire. Mais gardez le sourire, je vous en prie. Restez lucide quand même. Voilà, c'est mon conseil du jour. Bonjour. Donc, à toutes et à tous.
Allez, bonne soirée.
Une excellente soirée. Et à demain, même heure, même endroit.